Sébastien, enfin, je me suis défoulé, vous comprenez. Toutes ces rencontres de camarades à plumes et à poils, à quatre pattes ou à mille pattes. Petit à petit, c'était enfin engrangé un petit peu en moi.
CO2, mon amour.
Alors, si ce livre a un intérêt pour les amateurs de choses vraies, de la nature, des forêts, de l'herbe, des feuilles, des bêtes, de l'eau qui court, de toutes ces réalités dont on a un peu plus besoin que jamais, je me permets de le dire en passant, eh bien pour tout cela, j'ai cédé à la pente de ma nature et en somme la grosse bête la plus ressemblante dans mon bestiaire, c'est moi.
Denis Chessoux, sur France Inter.
Mort et jeune voix en 1969, évidemment l'homme de ceux de 14, mais aussi l'homme de la Loire et l'homme de la nature. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie, avec Pierre Lemierre à la technique aujourd'hui, et assisté de Camille Blanès et de notre stagiaire Alice Michaud, et bien c'est Henri-Marc Mutel qui réalise l'émission. Alors, des cérémonies, des flots de mots nécessaires célèbrent la fin de cette effroyable boucherie que fut la Grande Guerre. 14-18, un abattoir humain sans caméra. Ne serait-il pas temps maintenant de faire un bilan de ces nationalismes enragés, de ces obscurantismes criminogènes qui ne poussent qu'à détruire dans un même élan les hommes, les femmes, les enfants, les bêtes, les blés et la terre ? Terre qui porte ses femmes, ses enfants, ses hommes, et c'est volontairement que je renverse l'ordre habituel machiste non avoué des choses, en plaçant l'élément féminin en première place. Freud nous a appris la difficulté, voire l'impossibilité à supprimer cette inclinaison humaine, qui est plutôt masculine, à l'agression. Les femmes sont porteuses de vie, rarement je dis, semeuses de guerre et d'épouvante. Un siècle nous sépare de cette der des der qui devait mettre un terme à toute violence, comme de ces années, vous savez, heureuses, celles des foulards bariolés, des fleurs dans les cheveux, des pissants de love, hier très tendance. La guerre est une affaire d'hommes qui commence par un combat de coq emplumé, 2-3 incursions dans les campagnes à la recherche du loup, et puis ravage soudain des villes et des villages, emportant le destin du monde en tempête de feu, avec la plus grande reconnaissance des industriels de l'armement. Alors nous subissons, nous, les folies naturelles de la terre, du ciel, celles qui s'invitent toutes seules, sans les convier, amplifiées par notre chaleur humaine. Et puis nous subissons aussi les folies qu'on a causées, les incendies géants, océans plastifiés, poisons agricoles, qui certes ont nourri après-guerre l'Occident, mais là c'était des révolutions vertes sans le vert. Aujourd'hui, grand contournement ouest de Strasbourg, jolie ville pionnière des transports doux. Alors un régal pour la marche, le vélo, le tramway à l'intérieur. Et grand contournement, aspirateur à moteur, écrabouillant le vivant à l'extérieur, chercher l'erreur. Alors oui, armistice en tout et faire la paix avec sa planète, grignotée, bombardée de nos injonctions contradictoires avec une nature à genoux. Paix avec les sols, les oiseaux, les rivières, les abeilles, l'air, que sais-je, les animaux, les cerfs flingués dans les jardins, les taureaux. On a rétréci le monde, on le sait. Le combat ne fait que commencer et cette guerre-là, c'est peut-être la plus difficile à mener car elle est contre nous-mêmes. Il nous faut la gagner. Alors vous avez un truc très très mode actuellement, c'est la collapsologie. Donc effectivement, lorsque la société fait un collapse parce qu'on peut plus y arriver, valeur montante et en même temps limiter la casse et fabriquer de la résilience, c'est aussi une autre valeur extrêmement montante. Et je peux vous dire que c'est possible. Si, il suffit de regarder la Terre autrement que comme un réservoir à siphonner et qu'un immense casino pour actionnaires assoiffés. Bref, oubliez l'économie de rapine. Avec un peu d'amour, de clairvoyance, d'équité, de volonté partagée, de science, de sobre technologie et de respect. Comme disait Catherine Chabot, les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement et de persévérer. Comment faire la paix sur Terre si on ne peut pas faire la paix à la Terre? Là, j'ai pas la réponse parce que les deux fonctionnent ensemble. Faire la paix avec sa planète et ses voisins, c'est le cahier des charges utopiques, fou et très motivant de ce 21e siècle. Vive les armistices! « On va commencer donc par une actualité. Bah oui, on va parler de diesel peut-être à notre façon, de cette hausse des taxes sur le carburant. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou.
Je suis ravi parce que votre ouvrage donc, qui a été réédité, Le Sol, enquête sur un bien péril, marche bien aux éditions Champ Flammarion. Voilà, et je disais paix aussi avec les sols. Ça, c'est quand même la base hein, aussi. C'est ce qui nous nourrit donc les uns et les autres.
Hein. Bah oui, ça c'est sûr. Et ces sols ont été ragés. Moi, je suis né sur un champ de bataille hein, dans le Nord. Et le sol est redevenu fertile grâce au ce qu'on appelle le fumier humain, grâce à tous ces poilus qui ont été enfouis dedans, plus le salpêtre des explosifs qui a fait pousser les coquelicots et les bleuets. Hein. C'est là que viennent les coquelicots et les bleuets. C'est terrible en fait, marcher sur une terre, marcher sur un cimetière qui vous nourrit.
Ouais. Alors on va parler donc de diesel. Tenez, en 75, voilà ce que l'on pouvait en dire.
Citroën lance après Peugeot une diesel sur le marché. C'est peut-être un pari. 3% des Français seulement roulent en diesel, alors que 64% des chauffeurs de taxi s'en servent. La voiture diesel coûte plus cher à l'achat. Une 204 Peugeot, par exemple, fait 20% de plus en formule diesel. Quant à la consommation, en essence comme en gazoil, elle est sensiblement la même.
Vous voyez, avec une diesel, c'est une petite cylindrée, encore vous faites sur 100 km, vous avez fait déjà 6 francs d'économie.
Voilà, donc c'est en 1975. Alors aujourd'hui, donc Frédéric Danhé, on a donc cette non-acceptation donc de ces deux hausses. Elle est symbolique de quoi ?
Elle est symbolique d'un ras-le-bol. Les gens ont l'impression de s'être fait avoir parce qu'on les a incités pendant des années. Enfin, quand je dis les gens, nous sommes fait avoir. Pendant des années, on nous a incités à acheter du diesel. Subitement, le diesel devient polluant, devient un ennemi de la planète et subitement, il faut passer à autre chose. Et puis, on se sent emprisonné. Pourquoi ? Parce que la voiture, symbole de liberté, devient un symbole d'assujettissement. D'assujettissement à un budget qui est croissant. C'est 8000 euros par an en Ile-de-France, hein, la voiture. C'est 200 à 300 euros par mois parfois, hein, en zone rurale pour l'essence, enfin pour le carburant. Voilà, donc ce qui était le symbole de la liberté devient le symbole d'un enfermement à la campagne, en périurbanité. On a voulu avoir notre maison close de jardin. En même temps, on y était un peu obligé.
C'est-à-dire qu'on a aussi voulu avoir du foncier beaucoup moins cher. Hein,
on a voulu avoir du foncier beaucoup moins cher parce que le foncier qui n'est pas contrôlé en France est trop cher en centre-ville. Donc tout cela a favorisé l'étalement urbain, c'est-à-dire le désaménagement du territoire qui s'est fait sur le dos des gens qui habitent loin et qui se rendent compte aujourd'hui que le pari qu'ils ont fait va peut-être pas être gagné à l'avenir à mesure que le coût d'usage de la voiture augmentera.
Ce que vous dites, c'est que ce modèle de l'étalement urbain compensé par le tout voiture touche à sa fin
et on le voit là. En fait, ce qu'on voit là, c'est le prix de l'étalement urbain. On le voit par exemple de façon très concrète, très précise dans l'agglomération d'Aix-Marseille il y a 20% des emplois de service qui ne sont pas pourvus. Pourquoi ? Parce que les candidats disent, moi, compte tenu des bouchons et de la faiblesse des transports en commun, je ne postule même pas parce que ça me coûte 300 euros d'essence par mois. 20% des emplois non pourvus. Voilà un prix. Le prix du désaménagement du territoire, du laisser-faire.
Alors, comme on aime bien le pas de côté dans cette émission, on va revenir aussi sur cette histoire du diesel.
Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Et les fils d'auto, y en a trop. Et les fils d'auto, y en a trop.
Alors, on a eu des jupettes, on a eu des baladurettes, on a eu des primes à la casse. Et il fallait sauver le soldat Peugeot, quand même, à une époque, avec Jacques Calvec, donc, qui devient président de cette affaire-là. Et donc, il reprend en main Peugeot, qui, à l'époque, était en quasi-faillite.
Donc, il négocie avec les partenaires sociaux, comme on dit de nos jours, le départ de 50 000 personnes. Et puis, sa seule valeur ajoutée, le seul trésor qui restait encore dans les coffres de Peugeot, c'était le petit moteur diesel pour les petites voitures urbaines que n'avaient pas développé les Allemands. Donc on y est allé à fond sur le moteur diesel.
On rappelle que quand même Rudolf Diesel,
c'était un Allemand qui déjà en 1896 avait dit que son carburant quand même n'était pas très sain. Et d'ailleurs, quand vous regardez toute l'histoire des concours automobiles, le diesel faisait peur à tout le monde. Je ferme la parenthèse. Donc on a pour sauver le soldat PSA, on a tout taxé et on a incité les consommateurs, on les a même poussés à acheter un moteur diesel qui était déjà connu pour être cancérigène dès 1988, si vous voulez. Voilà, ça c'est pour sauver le soldat PSA.
Qu'en fait un diesel peut fonctionner à condition qu'il ait donc un rapport, on va dire constant, régulier. Il faut qu'il chauffe.
Il faut qu'il chauffe pour que le filtre à particules fonctionne. Et c'est ça tout le drame, c'est que les moteurs urbains ne sont pas faits pour les 450 degrés, je crois, de température de carburant qui doivent permettre au système de dépollution de fonctionner sont rarement atteints en ville où on est toujours en sous-régime, où ça monte, où ça descend, où on freine, on n'est jamais à 80-90 km/h de façon constante, ce qui fait par exemple qu'un semi-remorque sur l'autoroute n'émet quasiment pas de particules parce que là le système anti-pollution
Voilà,
il y a eu 98% d'abattement de particules sur 30 ans à la sortie des semi-remorques. Résultat, et c'est ça le paradoxe, c'est que les diesels fabriquent, émettent des particules plus petites, en plus grand nombre, et ces particules, parce qu'elles sont plus petites, ont une surface d'accrochage sur nos alvéoles plus importante, et elles sont donc plus nocives.
C'est-à-dire que la toxicité est liée à la surface de contact sur les alvéoles.
Quand vous diminuez le diamètre d'une microparticule d'un facteur 10, vous augmentez la surface d'un facteur 100. Or, c'est sur la surface de la microparticule que se fait la toxicité, pour faire très court.
Et alors, l'essence, on va nous dire, oui, alors l'essence, bon, là, on comprend bien qu'on nous incite donc, à prendre des voitures électriques. Là aussi, sur cette transition, on a quand même des gros points d'interrogation, à la fois sur le bilan, on va dire, d'une voiture électrique, on le sait, lors de sa fabrication. C'est vrai que lorsque, au pot d'échappement, bon, il n'y a rien qui sort.
C'est sur la fabrication de la voiture, etc. De toute façon, on rasera
le recyclage.
Mais en termes de pollution de l'air, mieux vaut une voiture électrique, une voiture à combustible fossile. Les pneumologues portent déjà l'alerte sur le moteur essence en disant attention, les nouveaux moteurs essence, turbo-injection directe, qui sont quasiment la norme aujourd'hui, émettent plus de particules plus fines, donc plus nocives. Et voilà, on incite les gens à acheter de l'essence et demain, on va les inciter à acheter l'électrique.
Alors, pourtant, donc, cette transition, on va dire, énergétique, on va dire écologique. Et dans la transition écologique, il y a aussi la transition donc, énergétique. C'est quand même ne plus dépendre à 80% des énergies fossiles aujourd'hui. C'est baisser nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont reparties à la hausse en 2017. C'est donner un prix à ce qui pollue. Donc, on pourrait se dire, au départ, c'était pas une si mauvaise intention que ça.
Ah non, mais c'est une excellente idée, sauf qu'on l'amène comme ça tout d'un coup. Quand on a commencé à parler de transition énergétique, on a oublié de dire que 30% de nos émissions étaient liées au transport en France et que 57% de ces 30% sont liés à la voiture.
Alors, attends, les 30%, non, c'est bien de le remettre à niveau. Alors, déjà, la France, c'est 0,8%
à l'échelle du monde. Et sur 100 kg de CO2 émis par un Français, il y en a 30 qui sont liés au transport et 57, 58 à sa voiture.
D'accord.
Sur ces 30%, ça fait 15% en moyenne. Donc c'est un volant, c'est un levier d'amélioration énorme. On n'en a jamais parlé au début de la transition énergétique. On a tout axé sur le logement, très bien. On a tout axé sur le nucléaire, très bien. Mais on a oublié de parler des transports. Et aujourd'hui, subitement, on parle des transports. On avait commencé à le faire avec l'écotaxe. C'était très bien l'écotaxe. Et puis, subitement, l'écotaxe s'arrête. Voilà, pouf. Et donc aujourd'hui,
s'écrase et hop, c'est terminé.
Et ben voilà.
C'était ça. D'accord. Bon, et donc l'avenir, ça va être quoi? Parce que là vraiment, c'est pas simple. Hein.
L'avenir,
qu'on peut être à la fois très sincère en veillant à son pouvoir d'achat et en s'intéressant à l'écologie.
L'avenir, ça va être quoi? De toute façon, le coût de la voiture va être de plus en plus important. D'un point de vue technologique, les voitures coûtent de plus en plus cher, à l'entretien notamment. Ensuite, de toute façon, faut pas rêver. Les taxes vont augmenter parce que c'est ça, l'air du temps aujourd'hui. Taxe carbone, écotaxe. De toute façon, on en reviendra à ça. Mais ce serait socialement acceptable si 100% de cette taxe était redistribuée justement aux gens pour faire diminuer la facture de l'achat d'un nouveau véhicule. Et c'est ça aussi qui choque, ça n'est pas redistribué.
Merci beaucoup, cher Frédéric
Denis.
Voilà, et puis bonne suite à vous. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Just to change your state of mind. Don't wanna complain about the abuse. It sometimes makes you a little bit furious. You don't want no cocktail. You don't want no champagne. You like the money or nothing, and you love your soul. My angel on earth, you're more than you worth. My angel on earth, got a message this morning on my cell phone. I
felt my heart a bleeding. You don't like a good advice. You ain't by no silly guys. You don't want no cocaine. You don't want no champagne. You don't want no cocktails. You love.
Après Winston McAnuff, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur, donc toujours sur France Inter, CO2 Mon Amour. Deuxième partie, et nous allons partir, où ça? On va à Verdun.
La balade de Denis Chessou.
Ah, alors là, Guillaume Roy, on est dans votre domaine. Donc un très beau domaine de près de 10 000 hectares, donc cette forêt domaniale de Verdun. Et alors, faut peut-être imaginer ce qu'était donc... ce lieu, ici, avant 1914.
Voilà, c'est ce qui est très difficile aux touristes qui viennent en forêt domaniale de Verdun, c'est qu'ici, vous n'aviez quasiment pas de forêt avant la guerre. Sur les 10 000 hectares, il y avait environ 2 000 hectares de bois, de petits bosquets. Tout le reste, c'était des cultures, des champs, des vignes dans les versants sud. Donc, il y avait 7 villages qui vivaient... À l'époque, ça vivait beaucoup quand même en semi-autarcie. Ici, là, vous êtes sur le plateau de Thiaumont. Devant vous, il n'y avait qu'une grande plaine cultivée. On voit qu'aujourd'hui, bien sûr, tout a été boisé, en fait, puisque tout de suite après la guerre, les anciens combattants ont voulu conserver ce champ de bataille.
Oui, parce qu'il y a eu de la polémique. Ils se sont dit, si on va planter des arbres, ça va encore, on va dire, toucher déjà les morts qui sont dans le sol.
Voilà. Alors, si tu veux, entre l'ossuaire et le mémorial de Verdun, donc le musée de la bataille, il a été conservé, une partie intacte, où l'administration des eaux et forêts n'a jamais pénétré. On a laissé tel quel. Les anciens combattants voulaient l'entretenir pour conserver l'aspect bouleversé, les tranchées. Ils ont vite été débordés par la végétation. Donc en fait, maintenant, si on s'y promène, c'est une végétation très épineuse de petits bois.
Alors je souhaitais vous ramener sur ce lieu. Alors on sait que la Somme fut plus meurtrière encore, mais a laissé, on va dire, moins de traces mémorielles. Et donc on se rend dans une autre pompe aspirante de sang, cette broyeuse de chair, ce tue-jeunesse irrationnel, cette fabrique d'orphelins qui donne la chair de poudre. Forêt de Verdun, classée forêt d'exception aujourd'hui, donc on ne peut pas depuis un siècle cultiver cette terre qui est gorgée de métaux lourds, donc c'est impossible. Vous avez des balles, des obus, des shrapnels, des baïonnettes, donc elle est lourdement polluée. Forêt zébrée de sable, de boyaux, de tranchées. Les mares d'aujourd'hui ne savent plus qu'elles sont d'anciens trous d'obus, et on ne cultive pas sur des morts, sur une bataille que les Allemands voulaient décisive. Et on vient y cultiver maintenant de la mémoire du plus jamais ça, du que maudite soit la guerre. Et dès le printemps 1919, ce qui a frappé les gens sur ce champ de ruines, c'était les coquelicots, on en a parlé là, ces petites taches de sang bien vivantes qui jouaient avec le vent, et ces coquelicots donc qui poussaient sur cette terre amendée des corps de nos anciens. Et quand on dit anciens, ils étaient tellement jeunes, 18, 20 ans. Et voilà, moi je pense à Louis Averrousse, qui était mon grand-oncle, mort en 1915 à 20 ans, et puis à ma grand-mère, qui était sa sœur, qui avait un prénom de fleur si jolie, Marguerite, et qui est partie en paix, elle, un 11 novembre, comme un clin d'œil, c'était en 87, comme un clin d'œil à son frère. Alors il y avait des ouvriers, évidemment, des paysans, des charpentiers, des fonctionnaires, des milliers d'instituteurs qui écrivaient des lettres au milieu des rats, et qui écrivaient aussi pour des copains en disant... Ma petite femme chérie, bientôt je vais revenir, mais face aux Boches, il faut tenir. La guerre, que veux-tu, c'est toujours moche. Tenir, ça c'est les ordres. Il y a un nouvel horizon, la mythologie française a pris naissance à Douaumont. Donc on n'était pas loin, le temps, on va dire, il était un peu comme dans les chansons de Brel, il était plafond bas, pluie chagrine. Et on va débuter avec Guillaume Rouard, qui est technicien à l'ONF, qui nous raconte sa forêt, les plaies sous la forêt, dans votre magazine de nature et d'environnement à Verdun. Et sur ces 10 000 hectares de forêt domaniale, dans les années 20, c'était quoi à peu près ?
Peu de troncs, parce qu'il y avait peu de forêt, ouais. Hein, si tu veux, mais surtout un seul bouleversé, puisqu'il a été tiré environ 60 millions d'obus pendant la bataille. Donc plusieurs obus au mètre carré, on en a partout autour de nous. 100 000 hommes qui n'ont pas été retrouvés de la bataille. Tout de suite après la guerre, l'administration a demandé à ce qu'il y ait un grand déminage de cette zone. Bien sûr, tout a été ramassé, mais en surface. On a ramassé aussi la ferraille, on en voit encore un peu partout. Les queues de cochon, des choses comme ça.
Alors, les queues de cochon, on va rappeler que c'était quand même ça,
alors,
vous connaissez.
C'est l'espèce de tire-bouchon en métal qui permettait de tendre les barbelés. C'est on n'en a pas là sous les yeux, mais on en trouvera sûrement le long du chemin. Et puis, bien sûr, a commencé aussi l'opération de ramassage des corps, donc d'où l'ossuaire. Voilà. Donc, bien sûr, tous les gens qui venaient ici, qui trouvaient des ossements, tout a été ramené à l'ossuaire. Donc, environ 130 000 soldats qui ont été retrouvés, on dit environ parce que c'est difficile avec les ossements, qui ont été entreposés, donc français et allemands. Et la nécropole nationale devant nous, avec des soldats français.
Alors on marche en fait sur une fosse commune qui est extrêmement émouvante parce que...
Voilà, parce qu'on sait, surtout ici, vous êtes à l'ouvrage de Thiaumont, que les bombardements étaient tellement intenses et l'ouvrage a été pris et repris plusieurs fois entre les Allemands. On n'enterrait pas, hein, on mettait sommairement dans les trous d'obus et on recouvrait de terre. On n'avait pas le temps de faire des grandes fosses pour creuser ici, même il n'y avait pas de tranchées. On s'imagine toujours des belles tranchées avec des sacs de sable qui protègent, pas à Verdun. À Verdun, le bombardement était tellement intense que les soldats, en fait, creusaient un petit peu entre les trous d'obus pour se faire des espèces de tranchées. Ouais. Donc souvent, ils étaient dans les trous avec de l'eau jusqu'à la taille pour attendre l'ennemi. Voilà. C'était des conditions. Quand on dit l'enfer de Verdun, c'était pas c'est pas un mythe. C'est surtout, vous êtes sur des sols argileux. Donc dès qu'il pleut ou qu'il y a du passage, ça se transforme en boue. Il y a beaucoup de témoignages où des soldats étaient... C'est un peu comme des sables mouvants, quoi. La boue vous enlisait, vous ne pouviez plus en sortir sans l'aide de vos camarades.
Voilà. Et donc en fait, c'est au gré des intempéries que les corps, que des matières remontent.
Voilà, alors au gré des intempéries, aussi au gré de nos travaux, puisqu'on fait quand même beaucoup de travaux. C'est une forêt de production, la forêt domaniale de Verdun. Et donc on ressort, mais il n'y a pas de chiffre évident à l'année, mais plusieurs corps par an de soldats.
Alors, il y a une femme qui est avec nous qui s'appelle Laurence Hénart. Et Laurence, au départ, elle est géographe, elle est aussi ingénieure en environnement. Et puis aujourd'hui, elle est magnétiseuse et naturopathe, donc vraiment en lien avec cette nature. Et en fait, c'est la géographie ou c'est l'environnement qui vous a fait venir ici? Vous n'étiez pas très loin, mais dans cette Meuse.
C'est l'environnement et l'histoire. Ça m'a toujours plu. Et c'est vrai que ces paysages de Meuse, ces côtes, cette vallée, ça m'a toujours interpellée. Quand on se promène ici, on ne sait pas si on doit être calme, serein et triste en même temps. C'est un mélange en fait. Mais moi je me souviens toujours la première fois où j'ai amené mes parents. Et ma maman m'a dit, mais tu te rends compte, on était sur Fleury, le village détruit. Il n'y a aucun oiseau qui chante et on était en plein été. Et c'est vrai, il n'y avait aucun oiseau qui chantait. C'était vraiment le calme absolu.
Alors vous Laurence, comment vous ressentez cette énergie dans ce lieu ?
Alors en même temps, c'est vrai que déjà rien qu'en le regardant au départ, par la vue, par les sens en fait, hein, c'est par nos cinq sens qu'on rentre en contact avec les humains, la nature. Et la vue, c'est le plus important, le plus on se colle, le plus prégnant. Et donc quand on regarde la forêt, quand on regarde comment pousse un arbre, rien qu'en regardant, même si c'est des arbres de replantation, on en voit qui souffrent. On voit des fois leur forme toute torturée. C'est aussi de cette façon qu'on peut comprendre ce qui a pu se passer. Je me pose toujours la question de savoir comment la nature, si la nature pouvait nous raconter aussi ce qu'elle ressent, parce que c'est des arbres qu'on a replantés. Il y a toute une zone aussi qui a été laissée, entre guillemets, à l'abandon, où on n'a pas replanté. Et moi, cette zone-là, elle est juste en face de l'ossuaire. Hein. Et pour moi, c'est de la résilience écologique là-bas. Il y a vraiment une forme de psychologie qu'on peut appliquer en fait à la nature. Parce que là, la nature reprend ses droits. Et elle repousse comme elle peut, en tout cas, comme elle veut. Et j'ai l'impression qu'elle nous repousse en même temps.
Je pense qu'on se rend compte ici que c'est la nature, le sol a souffert et la nature nous le montre. Ouais. Qu'elle a du mal, même un siècle après, c'est pas facile. Lorsqu'on plante ici, on a des problèmes de reprise ou des choses comme ça, de reprise de plantation, parce que les sols ne sont pas évidents. Voilà, rien n'est facile à Verdun.
Jacques Delamain a publié en 1928 « Pourquoi les oiseaux chantent ?» Et cet homme-là a su rester à l'écoute de la nature et des oiseaux dans les tranchées au fur et à mesure qu'il écrivait son journal de guerre d'un ornithologue. 6 mai 1915.
Pendant une passe d'artillerie, quelques obus tombent sur le village. Nos 75 et nos 50 répondent par salve de 3 ou 4 coups. Un pinson sur le toit de la maisonnette en face de nous n'interrompt pas un instant son chant monotone et bruyant. Les verniers chantent leur dididi. Une hirondelle mâle posée à côté de sa femelle sur le même toit que le pinson gazouille sans s'arrêter. Arrivées ou départs de canon leur sont indifférents. Les moineaux piaillent pendant que le bruit des 75 déchire l'air. Le rossignol de Muraille fait entendre sa note triste.
On va juste rappeler que le 21 février 1916, il y a eu 1 million d'obus en 10 heures qui ont été donc balancés donc ici. Ah, alors là, on se met à genoux.
Un éclat d'obus, a priori. Bon, de toute manière, il faut savoir qu'ici, on estime à plusieurs tonnes de ferraille qui resterait à l'hectare. Hein, donc,
Alors, quand on se baisse, on peut avoir de...
Alors, vous pouvez trouver de tout, bien sûr. Ça va de l'éclat d'obus. Alors, il y en a de toutes les tailles, ça, hein, oui. Puisque au shrapnel, donc les billes de plomb qui étaient contenues dans les obus. Hein, vous savez, les obus qui explosaient à plusieurs mètres de hauteur et qui envoyaient toute une pelletée de billes de plomb. Et puis après, il y a tout ce qui allait avec le soldat. Hein, tout ce qui est armement, bien sûr. Ce qui intéresse beaucoup les fouilleurs, ce qui est beaucoup plus émouvant, c'est de tomber sur son encrier, sa bouteille d'eau de Cologne, ça m'est arrivé, la petite bouteille de Ricless, tout ce qui allait avec son quotidien. Et le problème, c'est que ces fouilleurs, lorsqu'ils trouvent des corps, ils gardent les plaques des soldats, donc ils emmènent la mémoire du soldat avec lui. Puisque nous, après, lorsque des corps sont retrouvés, on fait des recherches, enfin le ministère de la Défense fait des recherches pour retrouver la famille, les descendants.
Ouais.
Voilà, et qui décide après de ce qu'elle fait du corps.
Alors cette terre, en fait, à l'origine, elle était bonne, quoi.
Oui, c'était des bonnes terres agricoles. Bon, on est sur les plateaux de Meuse, c'est pas non plus des terres exceptionnelles, mais ça permettait de faire de la culture de blé, d'avoine.
Et donc elle a été brassée, ce qui fait qu'on a
complètement retourné. Il faut bien s'imaginer qu'ici, des obus, donc on tirait du calibre 75, mais c'est allé jusqu'à du 400 sur les ouvrages. Donc faut bien s'imaginer que tout le meilleur était retourné, le caillou est remonté. Voilà, donc nous, on travaille avec ce qu'on peut. Alors, les peuplements résineux ont permis en un siècle de recréer une couche d'humus.
Ouais.
Et c'est de cette couche d'humus qu'on s'en sert pour replanter maintenant des essences un peu plus nobles, on va dire.
Là, quand on regarde, en fait, on a aussi beaucoup de faillères, enfin, on a beaucoup de hêtres.
Alors, le hêtre, c'est l'essence de meusienne par excellence, donc c'est pour ça qu'ici, on replante surtout en hêtre. Alors, c'était vrai jusqu'à quelques années, parce que la forêt de Verdun, c'est une forêt de résineux pour les vers du noix, et ils ne veulent pas la voir disparaître, donc on replante aussi des résineux pour sauvegarder l'aspect un peu... Ça fait un petit peu petite Vosges ici, quand vous vous promenez avec les épicéas, le pin.
Inévitablement, on marche aussi sur à la fois sur du cuivre, sur du zinc, sur du plomb, sur de l'arsenic, sur des gaz, sur tout ce que l'on veut. Et ça, c'est bon. Et c'est comme ça. Donc, on fait avec, quoi.
Ouais. Que ce soit ici ou bien dans toute la Meuse, hein, il y a aussi l'arrière-front allemand qui est connu aussi pour avoir eu des problèmes de pollution des sols. On le sait. Il y a une réelle pollution des sols suite à la Première Guerre mondiale. On en a vraiment très peu parlé. Et on se rend compte effectivement qu'il y a des pollutions qui seront là certainement dans 100 ans encore.
Et donc nous poursuivons donc ce voyage toujours avec Guillaume Rouard et donc Laurent Sénart. Et là, donc cette forêt, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Parce que l'ONF est en proie donc à ses doutes, à des contestations, à la crainte d'être privatisée. Donc c'est devenu quoi cette forêt?
C'est une forêt de production. Alors évidemment, il y a des zones tout autour de l'Ossuaire, enfin entre les trois forts là, Fort de Vaux, Fort de Souville et Fort de Douaumont. Ouais. Vous avez toute une zone touristique où on travaille un peu différemment. Mais les 10 000 hectares sont une forêt de production. On sort en moyenne 60 000 mètres cubes de bois sur la forêt, résineux et feuillus. Notre gros souci ici, c'est de pénétrer dans ces parcelles, parce qu'ils sont très bouleversés. Vous voyez, il y a des trous de plusieurs mètres de profondeur. Donc, on a réussi à faire des compromis avec les associations d'anciens combattants, de la DRAC, pour préserver tout ce qu'on pouvait en tranchées, en boyaux, et à niveler. Donc, on nivelle, on est obligé un petit peu de niveler pour que nos tracteurs puissent pénétrer. On nivelle un petit peu.
Ah, là, c'est intéressant, là, parce qu'on imagine bien que la trou d'obus Et hop, on a la petite roselière. Et donc, ça va être un petit paradis, ça, pour nos batraciens, non?
Ah, donc oui, alors sur Verdun, la particularité de Verdun, c'est qu'on a un amphibien qui est menacé de disparition, donc protégé par une directive européenne, le sonneur à ventre de jaune.
Ah oui, c'est un crapaud.
Et qui,
oui.
Ce crapaud, ce tout petit crapaud, hein, puisqu'il fait en taille adulte, il fait 5 cm.
Mais alors, il
maximum.
Sonne, hein, il y va.
Il y sonne, oui. Oui. Il a une pupille en forme de cœur. Alors, la particularité de ce crapaud, c'est que vous pouvez lui creuser tout ce que vous voulez en petite mare et tout, il n'ira pas. Lui, ce qu'il veut, c'est des ornières fraîches. Faites par les tracteurs, parce qu'on dit que au temps des dinosaures, il existait déjà, et il se mettait en fait dans les traces des pas des dinosaures, puisque c'était des milieux donc avec peu d'eau, sûrement assez chaud, qui lui permettait de faire sa reproduction. Voilà. Donc il aime bien nos ornières de tracteurs. Alors comme il est protégé, cette petite bête, eh ben, dès qu'il suit nos tracteurs, on est obligé d'arrêter nos chantiers pour... le protéger. Voilà, d'accord. C'est un petit souci de gestion ici, donc il faut qu'on fasse très attention, qu'on surveille tout.
Ce qui ne vous embête pas, ce sont les chauves-souris.
Regarde
le nombre d'abris qu'il y a. On se dit que ça va être un paradis là-haut.
C'est un paradis, puisque je crois qu'il y a une vingtaine de chiroptères qui sont recensés sur la forêt domaniale de Verdun. Évidemment, ici, tout de suite après la guerre de 1870, il y a 42 forts et ouvrages qui ont été construits, sans compter les petits abris d'infanterie, des choses comme ça, sans compter les sapes qui ont donc été creusées pendant la guerre. Donc ici, c'est un peu leur paradis. Vous savez que les chiroptères sont en nette diminution, notamment dû à l'agriculture intensive et l'usage de pesticides, enfin d'insecticides surtout. Donc ici, elles sont dans leur milieu et on fait tout pour les protéger. D'où souvent des grilles qui sont mises à l'entrée des forts. C'est pas pour empêcher les...
C'est la question que je voulais vous poser là, oui.
Voilà, c'est parce que bien souvent, enfin on a eu souvent le cas, des gens qui pénétraient et qui ne retrouvaient rien de mieux que de les chauves-souris qui étaient pendées au mur, de les taper avec des bâtons.
Bah, bien sûr.
On les protège. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que dans la majorité des cas en France, les champs de bataille ont été rendus à l'agriculture, la forêt permet de conserver l'aspect bouleversé, de conserver les tranchées, les trous d'obus.
C'est vrai que pas très loin sur le chemin des Dames, c'est de l'agriculture qui a repris ses droits.
Voilà. Et si vous voulez, les épicéas surtout, donc qui sont des peuplements assez denses.
Et qui n'ont rien à faire ici.
Ça fait un peu un aspect cathédral. Ouais. La lumière n'arrive pas au sol et vous voyez bien le bouleversement des sols. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on essaye. Alors malheureusement, l'épicéa, on a des soucis d'attaque d'insectes, donc on ne peut pas tellement replanter, mais on essaye de le remplacer par d'autres sapins pour résister à ces attaques d'insectes ou aux modifications climatiques.
Ah oui, voilà. Parce que le réchauffement aussi, vous l'avez ici, ce qui fait que vous avez des résineux qui viennent de Méditerranée.
Alors maintenant, oui, on replante des résineux grecs ou turcs pour essayer de pallier à la modification du climat. Alors, le nord-est de la France sera quand même assez protégé de ces modifications climatiques. Je ne parle pas en niveau température, mais au moins au point de vue pluviométrie, ce qui nous permettrait de conserver encore le hêtre quelques... Je ne sais pas si on parle en siècle.
Ouais, on va dire un siècle.
Allez, un siècle. Donc c'est pour ça qu'on nous rapatrie ici à Verdun des hêtres un peu partout en France, surtout du sud de la France. C'est ce qu'on appelle nos plantations Giono. On replante des hêtres du sud de la France pour les conserver d'un point de vue génétique.
L'homme qui aimait les arbres, donc c'est bien, c'est la plantation Giono, c'est joli.
Plantation Giono.
Alors, mon brave, vous êtes marié, soldat ?
Oui, j'ai une femme. Jamais je ne la reverrai. Je vais te tuer.
Allons, un peu de cran, vous vous conduisez comme un lâche.
Je suis un lâche, moi.
Secouez-vous, soldat.
C'est impossible, en fait, de se dire qu'il n'y a pas, justement, dans cette énergie, quelque chose qui à la fois, qui est de l'ordre de la vie absolue et de ce mélange de peur, d'effroi, de désarroi, de folie des hommes, parce que c'est quand même ça qui est concentré ici, quand on sait que il y a pas un mètre carré pratiquement qui a été repris, quoi. Ça a duré pendant 10 mois, cette boucherie, et en fait pour rien, sauf peut-être évidemment pour des industriels.
Sergent, veillez à donner des ordres pour débarrasser mon régiment de cette poule mouillée.
C'est tout ça en fait qui est compilé là-dedans et qui s'enchevêtre, hein, dans cette nature.
C'est vrai qu'il y a aussi les plantes obsidionales.
Ouais, c'est ça. Alors allons-y, parce que là on est quelques-uns à avoir un peu oublié ce que sont les plantes obsidionales, si toutefois on l'a su.
Si, alors ce sont des plantes en fait, c'est un terme latin qui veut dire que la plante elle est arrivée à cause de sièges militaires. Le panico, ça c'est une plante qui provient, c'est les Russes en fait, voilà.
Mais les Allemands ont ramené avec leur fourrage aussi, je ne sais plus quel.
Il y a les,
Américains avec leur...
C'est ça. Alors les Russes.
Ça c'est toutes les plantes voyageuses, les grandes voyageuses que l'on a. Oui,
alors qu'ils sont arrivés soit par les fourrages, parce que que ce soit les soldats russes, soldats allemands, soldats américains, ils amenaient leur fourrage.
Ouais.
Donc effectivement, dedans il y avait les plantes de leur pays et qui se sont retrouvées donc après coup avec les graines. Il y a eu un ensemencement.
Il n'y avait pas encore d'OGM à l'époque.
Non, voilà. Et donc on se retrouve avec des plantes qu'on retrouve maintenant, des plantes comme le panicot, mais il y a aussi par exemple la gentiane jaune, la grande gentiane qui est arrivée par ici.
Bah ça c'est pas forcément les Américains, la grande gentiane.
Non, les Américains oui. C'est la bermudienne.
Voilà.
C'est une plante des Bermudes, qui est toute mignonne, elle est toute belle, elle a des beaux yeux bleus.
Alors là Laurence, on arrive face donc à cet ossuaire de Douaumont. Quand même très impressionnant, là, qui a été bien sûr bien nettoyé et qui a été financé d'ailleurs par qui ? Par les villes qui...
Par les villes du monde entier. Ouais. Il y a des villes de France, mais des villes des États-Unis, d'Angleterre, enfin de partout. Et elles ont toutes d'ailleurs leur blason qui est donc sculpté sur ce monument qui est totalement privé en fait.
Et alors on a donc cette symbolique de cette élévation, d'ailleurs avec une croix dessus.
Il y a une croix, ça représente en fait un phare avec la lumière pour un peu, en quelque sorte, attirer toutes les âmes errantes du lieu et leur montrer en fait que la lumière est là et il faut aller vers le ciel, vers le haut, mais pas rester parmi les hommes. Et c'est vrai que ça ressemble aussi, quand on regarde ce monument, ça ressemble aussi à une épée qui est plantée dans le sol. Et moi, je fais toujours le parallèle avec l'acupuncture, l'acupression en fait que je pratique. Et c'est vrai que quand on a des zones dans le corps qui n'ont pas assez d'énergie ou trop d'énergie, c'est des zones qu'on va travailler, alors soit avec une aiguille, soit c'est de l'acupuncture, soit avec la main, en appuyant, en massant. Là, on est dans de l'acupression. Et là, cette ossuaire, cette aiguille dans le sol, c'était vraiment pour relancer la vie, en fait, en quelque sorte. Donc on peut imaginer qu'il y a une fonction aussi énergétique de cette ossuaire.
Guillaume Rouard, évidemment, vous êtes vous technicien ici à l'ONF, donc avec votre travail de jardinier de la forêt. Mais je pense qu'inévitablement, on a obligatoirement des pensées un peu différentes. Le lieu est tout sauf neutre ici. Comment on vit ça, je dirais, au quotidien ?
Au quotidien, c'est quand même une remise en question à chaque fois qu'on est amené à travailler sur nos méthodes de travail. On part d'un principe qu'ici maintenant, surtout les jeunes générations de forestiers, on doit protéger tout ce qu'on peut encore protéger. Parce que la nature va se charger de la faire disparaître, de toute manière, naturellement. On peut constater que les trous d'obus, ils ne sont pas aussi profonds qu'ils étaient il y a un siècle, et ils le seront encore moins dans 100 ans. Donc si nous, on...
Parce qu'il y aura de l'apport de terre, voilà, du nivellement,
les feuilles tombent, voilà. Petit à petit, ça se rebouche, et donc ça va disparaître. Donc à nous de protéger au maximum ce qu'on peut. Donc au quotidien, je vous dirais qu'on a déjà ce travail-là, de protection des sols, et on essaye toujours de trouver au maximum les essences qui pourront vivre longtemps. Faire des bois de qualité, qu'on puisse garder une forêt productive. C'est un travail qui est difficile maintenant parce que beaucoup d'essences sont attaquées par des parasites, des champignons, des insectes. Donc sur Verdun, par exemple, on a beaucoup d'épicéas qui sont attaqués par le scolyte. On avait beaucoup de frênes qui sont menacées par le calara. On espère qu'il n'y arrive rien sur le hêtre parce que c'est une essence qui représente près de 5000 hectares ici maintenant sur Verdun.
Oui, donc la moitié quoi, de la forêt.
Moitié. Donc voilà, on essaye de faire en mieux.
Cette forêt donc a repris ses droits en fait assez vite. Et même d'ailleurs, on s'est rendu compte que en 1918, à la fin de la guerre, on a eu assez vite du coquelicot, du bleuet.
Alors justement, puisque c'est ça qui a frappé les touristes qui venaient surtout au printemps 1919, c'est que tout le champ de bataille était recouvert de coquelicots. Il y a eu une espèce de symbolique faite avec des soldats. Quoi. Voilà. La nature reprend toujours ses droits. La nature a horreur du vide. Vous voyez là, juste derrière l'ouvrage de Thiaumont, c'est le ravin de la mort qui redescend sur Bras-sur-Meuse. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé, donc les premiers jours, on est venu en martelage. Vous savez, c'est l'opération qui consiste à marquer les arbres l'hiver qui vont être abattus. Avec des collègues, je leur montre, je leur dis, mais les gars, il y a des ossements là. Et pour moi, j'étais pas un habitué, enfin j'avais 25 ans. Et je leur ai dit, c'est pas un animal. Ils m'ont dit, ah non, c'est humain. Ils m'ont dit, mais c'est des côtes, c'est pas grave, tu laisses. Tant qu'il n'y a pas le crâne, on s'arrête pas, quoi. Donc. Ouais. Et là, ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je sais que mon arrière-grand-père, en plus, s'est battu ici. En plus, qu'il était nettoyeur de tranchées. Donc, vous savez qu'il achevait un peu les blessés et tout. Enfin, les ennemis, quoi. Et bon, bah, il y a l'émotion, oui, ici, vous l'avez.
C'est-à-dire que c'était pas l'indifférence de la part de vos collègues. C'est simplement d'arriver à vivre et de se dire, bah oui, mais si on doit s'arrêter à la moindre demi-côte,
c'est malheureux. Et oui. Même moi, maintenant, 20 ans après, j'en suis là. On retrouve régulièrement des ossements et donc on fait des recherches un peu plus poussées pour voir on trouve quelque chose, mais on ne s'arrête plus. Quand vous retrouvez un godillot de soldats avec les ossements encore dedans, vous savez qu'ici, 2/3 des soldats étaient tués par l'artillerie, donc souvent déchiquetés.
C'est-à-dire qu'ils peuvent être pulvérisés à 50 mètres.
Pulvérisés, on ne s'acharne pas à creuser aussi. Et puis, Écoutez, ils sont tous là, autour de nous. J'ai envie de dire qu'on les laisse tranquilles. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque les familles sont recontactées, elles nous disent laissez-les auprès de leurs camarades.
Tu me fais peine, tu sais. Tu vas tout de même pas devenir comme ces malheureuses que je vois passer tous les jours. Oui, c'est mal, hein, ça. Je prends les photos par charité, mais crois-moi, j'ai plutôt l'envie de leur dire les morts sont morts, même si on ne sait pas où ils sont.
C'est gentil ce que vous me dites.
Mais là, je pense qu'on passe à une autre étape. Et la régénération, le fait de replanter des êtres, ça nous montre bien qu'il va falloir passer à autre chose, comme dans le deuil.
C'est joli, voilà, c'est ça. Et vous dites effectivement replanter des êtres, vous avez dit. On peut
des
le prendre.
Êtres, ouais, oui, voilà, c'est ça.
On peut le prendre dans les deux sens.
Merci à Laurent Sénart, à Guillaume Rouard et puis aussi à Xavier Pessugia qui avait réalisé donc ce reportage. Je tiens à vous dire que Verdun est devenu une très jolie petite ville en bord de Meuse, donc dans ce département de la Meuse. Vraiment, c'est très très agréable. Et bah, dans quelques instants, on va parler encore d'abattoir, mais ça va être autre chose. Dans quelques instants, ça va être notre dernier sujet, une certification bio. Qu'est-ce que ça vaut cette affaire, hein? Clara Luciani sur France Inter, troisième et dernier sujet lui aussi dans l'actualité, les abattoirs du Bois Chaud dont L214 a posé ses caméras, donc de nouveau un scandale dans l'Indre et on a appris donc que cet abattoir était certifié bio par EcoCert. Alors EcoCert fait partie d'une dizaine, on va dire, d'organismes certificateurs. Alors on connaît pour le bio AB, on connaît EcoCert, il y en a d'autres, mais donc là c'était un peu le moment de se poser la question, parce qu'on est quand même plus que troublé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Cyril Stodel, bonjour à vous, vous êtes le directeur général de EcoCert France, et la certification des abattoirs dits bio, on veut en savoir plus, c'est ce que c'est crédible, parce qu'on a quand même quelques doutes.
Bonjour Monsieur Chessou. Alors tout d'abord, je voulais dire au nom d'EcoCert que nous condamnons avec la plus grande fermeté tout acte de cruauté envers les animaux, quel qu'il soit. Et je sais que c'est également le cas de tous les acteurs de la bio, y compris des éleveurs, qui ne comprennent pas que de tels actes puissent se produire. Et je tiens à leur exprimer ma solidarité. Alors, par rapport à notre
métier...
Et on
peut même rajouter d'ailleurs qu'ils bossent très très bien, hein, les éleveurs bio.
Absolument. Ah, oui. Justement, en fait, ont vraiment le bien-être animal en ligne de mire. Et c'est vrai que c'est absolument intolérable.
Mais il y a quand même un trou noir à la fin, donc qui s'appelle l'abattage. Alors, quel est votre rôle? Racontez-nous.
Alors justement, notre métier, en fait, déjà dans la bio, il consiste à contrôler le respect des règles du règlement bio. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle un cahier des charges du producteur jusqu'au distributeur. Donc on passe, une fois par an chez l'ensemble des opérateurs de la filière, y compris des abattoirs, pour pour vérifier si les exigences du cahier des charges sont respectées.
Alors ça, c'est sur le papier, le cahier des charges, c'est-à-dire ce sont ces surpièces que vous jugez les choses ?
Alors absolument, le cahier des charges, en fait, c'est l'ensemble des règles dont les acteurs des filières bio se sont dotés pour s'assurer que le produit puisse bénéficier d'un label bio. Alors ces règles dans un abattoir, pour être très spécifique sur la question du bois chaud, elles consistent en bio à s'assurer de deux éléments. Un, qu'un aiguillon électrique ne soit pas utilisé par le personnel pour faire avancer les animaux. Et deux, qu'il y ait une vraie séparation entre la viande bio et la viande conventionnelle, de manière à ce qu'elle ne soit pas mélangée. C'est ce qu'on appelle en fait un exercice de traçabilité.
Donc c'est l'aiguille d'un côté et c'est le non-mélange de l'autre.
C'est ça. Mais au moment de l'abattage d'animal, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'abattage en bio ou d'abattage en conventionnel. Comme c'est un moment qui, effectivement, est extrêmement délicat,
oui, on ne donne
pas
quoi,
la mort, effectivement, à un animal de façon anodine, cette étape-là est complètement régie par la réglementation générale et pas la réglementation bio, parce qu'il n'y a pas une façon d'abattre un animal en bio et une façon d'abattre en conventionnel. Il s'agit de minimiser la souffrance de l'animal, quelle qu'il soit.
Là, quand même, ce que l'on a vu, je sais que vous n'êtes pas derrière donc chaque abatteur qui fait parfois ce qu'il peut, et surtout un directeur aussi, qu'est-ce que l'on peut faire ? Parce qu'on se dit... Ah bah attendez, ils sont certifiés bio et on voit une horreur. Quoi. Vous voyez, la réaction des gens, vous la comprenez, ça ?
On comprend complètement la réaction des gens et nous-mêmes, encore une fois, on a été extrêmement choqués par ces images. Pour le cas du bois chaud, pour vous donner l'idée, effectivement, on est quand même passé 5 fois en 2 ans dans cet abattoir et malheureusement, à chaque fois que l'on est passé, on a contrôlé les deux points dont je vous parlais et nous avons également assisté donc à des abattages et nous n'avons pas pu voir en fait d'acte de dérive à ce moment-là. C'est vrai que si on en avait vu, on aurait pu agir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais par le passé, sachez que il nous est déjà arrivé de retirer des certifications parce qu'on a pu assister à des actes en fait donc de maltraitance.
Mais alors Thierry Tsoretzel, lorsque vous arrivez par surprise, vous leur envoyez un faire-part avant ou comment ça se passe ?
Les deux cas arrivent. Là, vous voyez, dans les 5 contrôles, en fait, donc on a eu des contrôles qu'on appelle donc annuels, donc sur rendez-vous. On les prévient de notre visite, mais oui, on a également des visites inopinées. Et ça, c'est important. Sur les 5 contrôles, effectivement, on a eu 2 annuels et 3 inopinées.
Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que là, on va quand même vous dire, bon, c'est très gentil. On n'utilise pas donc l'aiguillon pour les pousser, pour les piquer, pour aller encore plus vite et avoir plus de rentabilité et plus d'horreur dans tous les sens. Ok, il y a une bonne séparation du bio et de la viande non bio, parfait. Mais il faut quand même améliorer le modèle, là, maintenant.
Alors, effectivement, il y a des pistes de réflexion qui sont en cours avec les interprofessions bio. Nous sommes nous-mêmes en étroite collaboration avec les services de l'État pour essayer d'agir et de faire évoluer des réglementations pour qu'elles soient toujours conformes aux valeurs de la bio. On s'interroge particulièrement, notamment, sur le fait que les éleveurs souhaitent éloigner du moment de l'abattage. Vous savez probablement que ce moment-là, on ne peut pas y assister. Les portes des abattoirs sont désormais fermées pour des raisons d'hygiène. Pour nous, c'est un vrai sujet, parce que si, effectivement, les éleveurs pouvaient accompagner leurs animaux jusqu'au dernier moment, comme ils faisaient avant, je pense que ça pourrait nous prémunir d'un certain nombre de problèmes. Mmh. Et puis, il y a également la solution de l'abattage à la ferme, qui, pour nous, est une vraie voie d'avenir. C'est une pratique qui est assez peu connue en France. Elle devrait être encouragée, selon nous.
Qui vient des pays nordiques,
par exemple.
C'est ça.
Absolument.
Et puis il y a aussi donc le fameux problème des caméras. Alors on a très bien vu que Stéphane Travert et aussi d'ailleurs les députés En Marche n'ont pas voté pour cela à l'Assemblée nationale, donc ils n'étaient pas pour du tout. Est-ce que ça pourrait résoudre une partie, je dirais bien, une partie du problème que d'avoir effectivement des caméras, on va dire, systématisées ?
Ça peut paraître être une solution relativement facile et je comprends qu'on puisse l'appeler des vœux de chacun. Pour autant, il faut quand même aussi se soucier des conditions de travail des gens qui travaillent dans les abattoirs, qui quand même pour la plupart sont des gens tout à fait donc dignes et respectables et qui sont eux aussi choqués par ce qui se passe ailleurs.
C'est quand même des métiers de galère. Hein. Quand on est abatteur, on a vu quand même pas mal de reportages. C'est pas simple. Hein. C'est pas. On est obligé aussi de se faire sa propre carapace pour arriver à vivre là-dedans. Hein.
Absolument, parce que, en effet, pour ceux qui ont pu assister à ce qu'est le quotidien de quelqu'un qui travaille dans un abattoir, c'est pas un environnement qui est très simple. C'est un acte qui est lourd, on donne la mort, c'est pas un acte anodin. Et dans ce type de situation, il nous semble à nous que la vidéo pourrait être utile, mais peut-être à d'autres fins, comme par exemple permettre aux éleveurs d'assister, sur la base du volontariat peut-être, à l'abattage de leurs animaux, plutôt que de filmer en continu et d'envoyer les bandes à des associations pour qu'eux-mêmes soient soumis à ces images à longueur de journée. Quoi.
Bon, de toute façon, c'est une mise à mort. Donc, soit évidemment, on devient végétarien, ou bien on continue à manger de la viande, mais il y a des gens qui vont vous dire « Moi, j'aime la viande, mais j'aimerais bien être sûr que la bête ne souffre pas et soit traitée correctement au moment de ses derniers instants. »
Enfin, nous, c'est plutôt ce qu'on appelle de nos voeux, effectivement, c'est-à-dire qu'on croit qu'on peut donner la mort à des animaux de manière digne. Pour nous, la question est là, comment est-ce qu'on peut renforcer encore les contrôles? Comment est-ce qu'on peut partager également la responsabilité de la surveillance avec des gens qui ont ça à cœur, dont les éleveurs, encore une fois?
Alors, qu'est-ce qui va bloquer? Parce que là, effectivement, vous êtes en train de mettre tous les points d'interrogation sur la table, ce que l'on comprend très bien, Thierry Stoetzel, mais sur quoi faut aller? Parce qu'après, il va falloir du législatif là-dessus.
Pour nous, les solutions passent par un dialogue avec les services de l'État. Nous sommes nous-mêmes sous la tutelle de l'INAO et ces discussions vont avoir lieu avec les services de l'État et les interprofessions. Il y a également les résultats d'un rapport qui a été très bien fait, qui détaillait 65 mesures, qui est en cours, je pense, d'examen législatif, qui explique d'ailleurs aussi toute la complexité de la situation. Par exemple, sur des sujets comme la formation des gens qui travaillent dans les abattoirs. En effet, je pense que sur le terrain législatif et des réglementations, qu'on pourra essayer de renforcer notre vigilance et nos contrôles.
Et ce sera poussé par l'opinion publique. C'est d'où effectivement le travail de 214, des véganes, etc.
Voilà. Je n'en doute pas. Ouais. Et de ce point de vue-là, effectivement, ils ont un rôle de lanceur d'alerte qui est intéressant, même si je ne partage pas la finalité de leur combat, qui est l'arrêt de l'élevage.
Merci à vous, Thierry Stoetzel. Et puis bonne journée.
Merci, vous aussi.
Ah bah oui, il nous fallait ça pour terminer. Ah bah évidemment, quand même un peu de gaieté avec Gotener, parce que c'est quand même plus facile de regarder, si vous voulez, une barquette en face que de regarder un animal mort, ça on le sait. Merci à toutes et à tous. Pierre Lemierre était à la technique, Camille Blanès, Henri-Marc Mutel, Alice Michaud, Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour. On va avoir un sujet un peu chaud la semaine prochaine, les grandes surfaces. Oui, alors on aura Antoine Frey qui est le président du Conseil National des Centres Commerciaux et puis donc quelqu'un qui a écrit un ouvrage sur comment en gros les centres commerciaux ont un peu dévasté quand même notre monde. Ce sera un débat semaine prochaine. Rediffusion entre 5h et 6h du matin. Le podcast, vous en avez l'habitude. 01 56 40 40 35. Ça s'appelle un répondeur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter l'essentiel. Bah ouais, un très bon week-end.